Voici maintenant un conte japonais qui s'appelle « Le pays des non-qu'un-œil », non-n'ont. C'est arrivé au temps jadis, aux temps anciens, lointains. Dans la ville d'Osaka, O-S-A-K-A, vivait M. Kintaro, K-I-N-T-A-R-O, et son épouse Tamana San, T-A-M-A-N-A, trait d'union S-A-N, c'est-à-dire Madame Joyeux sans défaut. En dépit des promesses de son nom, Madame Joyeux sans défaut avait plus d'imperfection que de vertu, mais comme son mari était tout aussi avide, paresseux et sans scrupules, les époux s'entendaient à merveille, unis comme un couple de canards mandarins. Tout en n'aimant pas travailler, le ménage appréciait les plaisirs d'une vie aisée. Mais le bon poisson cru, assaisonné de sauce michaud, les algues confites et les gâteaux de fèves sucrées coûtent de l'argent, sans parler de l'honorable riz et de l'honorable thé. Qui veut s'agenouiller le soir sur des nattes neuves devant des bols bien garnis, doit le payer de sa fatigue durant la journée. Cela plaisait peu aux deux époux qui cherchaient un moyen de gagner beaucoup d'argent sans se donner aucune peine. Naturellement, un tel moyen est difficile à découvrir sans quoi tout le monde en userait. Un jour pourtant, Kintaro dit à sa femme, « On raconte qu'il existe une île peuplée de gens qui n'ont qu'un seul œil et au milieu du visage. J'ai envie de partir à la recherche de ce pays et de capturer l'un de ces monstres. Nous le mettrons dans une cage et nous irons l'exhiber dans toutes les villes de notre pays. Les gens payeront volontiers pour voir un tel phénomène et nous deviendrons riches sans peine ni fatigue. » Tamana-san battit des mains. Hey, que vous êtes intelligent, monsieur mon mari! Ce sera en effet de l'argent facile et agréablement gagné. Mais savez-vous où se trouve cette île des non qu'un œil? À ce que l'on dit, répondit son mari, il faut la chercher dans la grande mer extérieure, au-delà des îles qui sont derrière les îles où l'on ne voit pas le soleil se coucher. Ah, ah, ah! S'émerveilla Tamara-san. De tels lieux existent donc vraiment. J'ai hâte de vous voir de retour, monsieur mon mari, et vous entendre raconter tous les prodiges que vous aurez vus. Le voyage fut long et périlleux. Kintaro courut mille dangers et contempla mille choses étonnantes. Dans des pays inconnus, il vit des gens étranges mener la plus surprenante des existences. Malheureusement, si bizarre que fût leur coutume, ces hommes et ces femmes avaient les deux yeux bien plantés de part et d'autre du nez et ressemblaient à tout le monde. L'honorable époux de Tamara-san commençait à douter du succès de son entreprise quand il arriva devant une grande île verdoyante d'aspect accueillant. Laissant sa barque au bord d'une grève de sable bleu, Kintaro prit un sentier qui le menait à l'intérieur de l'île. Et c'est alors qu'il le vit. Un homme venait à sa rencontre, et cet homme n'avait qu'un seul œil, un œil unique au milieu du front. En voyant le monstre, Kintaro resta cloué au sol. Le monstre, de son côté, paraissait frappé de stupeur. Reprenant ses esprits, Kintaro sourit, s'inclina en une profonde révérence et dit de sa voix la plus suave. M'est-il permis de présenter à l'honorable inconnu les respects de l'humble voyageur qui a eu l'audace de débarquer dans cette île merveilleuse? Le monstre s'inclina à son tour et répondit avec politesse comme il convient.
« Soyez mille fois le bienvenu. Je suis bouleversé de joie en voyant un si noble étranger fouler notre misérable sol.
C'est moi, au contraire, dit Quintaro, qui me trouve au sommet de la félicité. Quelle rare faveur de rencontrer l'honorable habitant de ces lieux enchanteurs.
Après un long échange de politesse, Quintaro en vint au but de sa visite et proposa au monstre de monter à bord de son bateau.
« Dès que me faire l'insigne honneur d'accepter une frugale collation. »
Le projet de Quintaro était simple. Une fois à bord, il ferait boire du vin drogué au monstre, et lorsque celui-ci s'éveillerait, solidement attaché sur sa couchette, le bateau serait loin de l'île des Nonquinœil. Le monstre, cependant, acceptait courtoisement.
« Je suis indigne d'un tel honneur et la généreuse invitation me remplit de confusion. Que le seigneur étranger daigne seulement me permettre de changer de vêtements et de revêtir un kimono de cérémonie qui convient à une aussi importante visite. Et si votre seigneurie me faisait la grâce de m'accompagner jusqu'à ma demeure, celle-ci en frémirait l'orgueil jusqu'au toit. »
Quintaro n'entendait pas laisser s'éloigner son monstre et accepta de le suivre. Arrivé devant la maison, le monstre s'effaça poliment.
« Daignez entrer !»
Hélas, ainsi que le dit le haïkai, la poésie. Plus mince que le shoji de papier est la paroi qui sépare l'instant de joie de l'abîme de douleur. À peine Quintaro avait-il franchi le seuil que le monstre fermait la porte et le saturait brutalement, criant
« Venez tous, venez vite! J'ai réussi à capturer ce monstre fabuleux, un être humain qui a deux yeux! Nous allons le mettre dans une cage et le montrer dans les foires pour de l'argent! Qui ne paierait pour voir un être aussi fantastique? Banzai! Banzai! 10 000 années de félicité pour ceux qui ont écouté ce récit !»
Le conte suivant est un conte turc et il s'intitule « Trois grains de sagesse ». Vrai ou non, et qui le sait, qui le dira? Mais on raconte que vivait jadis un pacha, c'est-à-dire un gouverneur de province, aussi juste que puissant, aussi généreux que riche. Débordait de vertu son cœur, débordait de sagesse sa tête, et les bienfaits coulaient de ses mains comme une eau vivifiante. Lorsque son fils unique atteignit l'âge d'homme, le pacha le fit venir, et lui parla, et dit « Tu es Beyzadé, c'est-à-dire fils de pacha, et un jour tu seras pacha toi-même. C'est un métier plein de dangers où la trahison se cache sous l'obséquiosité, où le manteau de la servilité dissimule le yatagan de la haine. Aussi je veux que tu partes à travers le pays. Va en tout lieu, parle à tous les gens, et partout où cela est possible, bâtis-nous des maisons solides. Ainsi, en cas de malheur, nous trouverons un toit pour nous abriter, un foyer où nous asseoir. « Pars, mon fils, et fais ce que tu as à faire. » Parole de père est édit de sultan, c'est-à-dire que la parole d'un père est comme une loi du roi pour le fils. Le fils de Beyzadé partit, visitant tout lieu, parlant aux gens. Partout où l'endroit paraissait convenir, il faisait édifier des maisons fortifiées. Si c'était au milieu d'un champ, on saccageait la récolte. Si c'était dans un village, on en chassait les habitants et l'on rasait leur demeure. Et les lamentations s'élevaient sous les pas du Beyzadé, les malédictions le suivaient et son mauvais renom le précédait. La rumeur en parvint jusqu'au palais du pacha et en ébranla les murs de marbre. Trembla le toit du palais et trembla le pacha. En toute hâte, il fit revenir son fils. Et cria sa colère, « Insensé, mon cœur me fait mal, tout mon corps me fait mal, quand je vois le mal que tu as fait. Ton nom est devenu une injure, ta face est noircie par la haine que tu as suscitée. »
« Mais je n'ai fait que t'obéir, père, » protesta le Beyzadé. « Ne m'avais-tu pas ordonné de bâtir des maisons solides ? Je les ai bâties. » Que me reproches-tu d'autre ?
Oh, 7 fois stupide, 77 fois stupide ! Je t'avais dit d'aller te faire des amis parmi les gens honnêtes et sages de ce pays. Ainsi aurions-nous eu autant de demeures prêtes à nous accueillir et à nous protéger. Et au lieu de cela, tu as bâti ces fortes stupides autant de bastions de haine au cœur des habitants. Et le pacha se détourna, et il dit avec amertume, « Va-t'en, fils indigne, et ne reparais pas devant moi avant d'avoir acquis ne serait-ce que 3 grains de sagesse. Puissent nos seuls ennemis entendre de telles paroles. » Chancelant de chagrin, le Beïzadé quitta le toit paternel. Il s'en allait au hasard et de sombres pensées le hantaient. Qu'irai-je et que ferai-je? Dans quel jardin de paradis pousse ces grains de sagesse dont parle mon père? Hélas, le stupide que je suis n'a pas compris que cet homme vertueux ne pouvait m'inciter à léser le droit des gens. Ainsi, sans même s'en rendre compte, le Beïzadé sentait germer en son cœur le premier grain de sagesse. La nuit tombait lorsqu'il arriva devant une tente faite d'un mauvais tapis usé. Un feu brûlait à côté et un homme faisait cuire de la viande. En entendant les pas, l'homme leva la tête. « Arrête-toi, passant, appela-t-il. La route continue, mais la journée s'achève. Voici l'heure de prendre du repos. Viens t'asseoir et partage mon repas. » Que la bénédiction d'Allah, le Dieu, soit sur toi, dit le Beïzadé. Il est vrai que je suis très las et affamé. Après avoir mangé le kebab cuit par l'inconnu, le Beïzadé l'interrogea. Qui es-tu, homme généreux? Pauvres sont tes vêtements, plus pauvres encore ta demeure, et pourtant tu invites tes passants et leur offres à dîner. L'homme dévisagea le Beïzadé. Puis, au lieu de répondre, il demanda à son tour. Quelle récolte a été de meilleur rapport cette année, le tabac ou le coton? Comment le saurais-je? S'étonna le Beïzadé. Alors, dis-moi s'il y a de beaux tapis de Khorassan au marché de la ville et combien valent les bracelets de turquoise. Je l'ignore, répondit le Beïzadé de plus en plus surpris. Me prends-tu pour une femme qui court les souks, les marchés, à longueur de journée? En ce cas, peut-être me diras-tu si la santé de notre pacha est bonne. Excellente gloire à Allah, dit le Beïzadé. En dépit de certaines contrariétés de famille qui assombrissent son cœur, c'est du moins ce que j'ai entendu dire, car un pauvre homme comme moi ignore ce qui se passe dans les demeures des grands. Son hôte hocha la tête. Il médita. Puis enfin parla. Soit, Beïzadé, j'accepte de t'aider. Ensemble, nous allons tenter de rebâtir ce qui a été détruit. Le doigt de la stupéfaction posé sur sa bouche, le Beïzadé regardait l'inconnu. Craintivement, il murmura. « Es-tu un djinn, un esprit, pour lire les pensées d'autrui ?»«
Je ne suis qu'un homme, » répondit l'autre. « Mon nom est Que-C'e, K-E-U-C-E, accent aigu. Et les gens m'appellent Que-C'e le malin. Toi-même m'as tout appris sur toi. Seul un riche s'étonne de la générosité du pauvre. Or, tu n'es ni propriétaire terrien, ni riche marchand. Par contre, les rumeurs du sérail te sont familières. Mais les hommes de cour ont coutume de se glorifier de leur naissance, et toi, tu dissimules la tienne. J'ai compris alors qui tu étais et quel remords te faisait errer sur les routes.
« Oh, merveille !» s'écria le Beïzadé. « Que c'est, papa ? Subtil d'entre les subtils !
communique-moi ta sagesse. Même une bonne graine ne germe pas dans le sol aride, dit que c'est. Mais il n'en coûte rien d'essayer de semer. Et ils se sont allés ensemble, refaisant le chemin parcouru naguère par le Beïzadé. Que c'est lui apprit à travailler de ses mains, à bâtir des maisons en lieu et place de celles qu'il avait fait démolir. Et ces maisons d'argile et de chaume devenaient de vraies maisons solides, propres à abriter leurs bâtisseurs en cas de malheur. Ainsi, ils ont cheminé, que c'est le Beïzadé, reconstruisant le détruit, changeant en amitié et reconnaissance ce qui était animosité et rancœur. Et la rumeur en parvint au palais du Pacha, flattant ses oreilles de père. Il rappela son fils pour lui parler avec douceur.
Tu as su effacer la honte de ta face, et cela est bien, dit le Pacha à son fils. Mais as-tu acquis la sagesse de celui qui doit gouverner? Il y faut de l'économie sans avarice, et de la générosité sans prodigalité. Voici de l'argent. Va et achète un mouton. Dans 40 jours, rapporte-moi un manteau fait de la laine de ce mouton, un chapeau fait de sa fourrure, rapporte-moi la chair de la chair du mouton et le sang de son sang, et ramène-moi le mouton vivant ainsi que l'argent que je te confie. Et à présent, va et fais. Le Beïzadé quitta le palais le front soucieux. Pourtant, s'il ne savait pas ce qu'il devait faire, il savait où devaient le conduire ses pas. Un second grain de sagesse avait germé, et le Beïzadé comprenait qu'il n'y a pas honte d'ignorer, il y a honte de ne pas chercher à apprendre. Il se rendit chez que ses babas, où il trouva accueil amical et oreille attentive. Que c'est, papa, toi qui comprends si bien tout ce qui n'est pas dit, dit le Beïzadé, explique-moi ce qui est dit, mais dont le sens me demeure caché. Mon père, qu'Allah le protège, m'a chargé d'une tâche impossible. Le Beïzadé répéta les paroles du Pacha. Que c'est écouta et sourit et dit « Demain, tu vas acheter non pas un mouton, mais une brebis de Karamani, K-A-R-A-M-A-N-I-E, prête à agneler, à avoir un agneau. Comme toutes les brebis de cette race, elle apportera 2 petits agneaux et pas un seul. Tu la tondras et de la laine tu tisseras un manteau. 40 jours durant, tu vas traire la brebis et vendre le lait pour récupérer l'argent de l'achat. Puis, tu tueras l'un des agneaux. De sa fourrure, tu feras un bonnet. De sa viande, un kebab. L'espèce de la viande. La chair de la chair de ta brebis. L'autre agneau, le sang du sang de la brebis, tu le ramèneras vivant avec la brebis vivante. Le Beïzadé fit ainsi. Et lorsque le Pacha, son père, le vit revenir, sa tâche accomplie, son cœur de père s'élargit de joie. Fils bien-aimé, rosier de mon jardin, rossignol de mon rosier, quelle source t'a abreuvé de tant de sagesse? La sagesse n'est pas mienne, répondit le Beïzadé, ni le mérite. Que ses babas, puisse Allah prolonger ses jours, m'a appris ce que je devais faire. Le Pacha approuva de la tête. Seul un sot, dit le Pacha, se part du mérite d'autrui, je suis content de toi, mon fils. Mais dis-moi, ce que c'est doit être un homme d'une très grande sagesse. Grande est sa sagesse, plus grande sa générosité, répondit le fils, car il sème sans compter son savoir. Et le Beelzebub parla encore, et il dit, Père, même le meilleur cheval peut avoir besoin d'un coup de cravache. Même toi, homme sage, peux avoir besoin d'un conseil. Fais venir Tossé et garde-le à tes côtés comme ami et soutien. Et c'était le troisième grain de sagesse germé en son cœur qui dictait ses paroles au Beelzebub. Et le pacha son père dit, « Ainsi ferons-nous. » Et il appela Tossé le malin et en fit son conseiller et ami. Et quand le Beelzebub devint pacha à son tour, il conserva près de lui Tossé le très sage, et leur amitié dura autant que leur vie. Trois pommes sont tombées du ciel. Une pour celui qui a imaginé cette histoire, une pour celui qui l'a racontée, et la troisième pour toi, pour celui qui l'a écouté. Le conte suivant est un conte hindou. C'est le porteur d'eau et les rajas. Un raja, R-A-J-A-H, c'est un roi en Inde. Il était une fois à Jaipur, J-A-I-P-U-R, un porteur d'eau nommé Hiradmand, H-I-R-A-D-M-A-N-D, que tous aimaient pour sa bonne humeur et sa gaieté. Lorsqu'il promenait son outre d'eau fraîche dans les ruelles du bazar, les gens le hélaient sans même avoir soif pour le seul plaisir de l'écouter. En remplissant la coupe ciselée de l'orfèvre ou la sébile de bois du mendiant, Hiradmand avait pour chacun des paroles aimables et amusantes. Ses plaisanteries rafraîchissaient l'esprit comme son eau rafraîchissait le gosier. Or, les habitants de Jaipur avaient grand besoin de sourire. Le Raja qui gouverne le pays était dur et cruel. La moindre faute ou ce qu'il considérait comme faute était puni de mort. Les gens vivaient dans la crainte, environnés d'espions empressés à dénoncer paroles imprudentes et attitudes irrespectueuses. Un jour de grande chaleur, Hiradmand, qui avait vendu toute son eau, se hâtait vers la fontaine quand un artisan l'appela. « Arrête-toi, homme trop pressé, et viens remplir mon bol, je meurs de soif !» Le porteur d'eau fit un geste désolé. « Il te faudra patienter, pauvre ami, mon outre est aussi vide que la tête de notre raja. » À peine eut-il prononcé ces paroles que des bras vigoureux l'empoignaient, saisis par les mouchards, espions, Hiradmand fut traîné devant le Raja et condamné à mort pour grave offense au souverain. Or, tandis qu'on attendait la venue du bourreau, au lieu de supplier et de se lamenter, le porteur d'eau éclata de rire. Outragé, furieux, le Raja s'écria « Comment oses-tu rire, misérable? Ne vois-tu pas la mort qui avance au pas de mon bourreau ?» « Je ris, Seigneur, parce qu'il est écrit dans les étoiles de mon horoscope que le responsable de ma mort mourra aussi dans l'heure qui suivra mon décès. Le glaive de ton bourreau, Raja, va trancher non seulement le fil de mes pauvres jours, mais également l'écharpe d'or de ta précieuse vie, Maharaja, c'est-à-dire grand roi. En me condamnant, tu t'es condamné à mort toi-même. Et pardonne-moi, je trouve cela très cocasse. » Le Raja, ai-je dit qu'il s'appelait Madokta, c'est-à-dire le furibond, s'empourpra de colère, puis blêmit de peur. Quand il parla, sa voix altérée tremblait.
« Vers rampant, indigne de contempler ma face, dans mon infinie mansuétude, « je te fais don de ta misérable existence. Mais comme je ne veux pas voir ton ombre, souiller mes terres, tu vas porter un message au Raja d'Udaipur qui fera de toi son esclave. »
Kiradman prit respectueusement la lettre royale, scellée de cire d'or et parfumée de musc, et il se mit en chemin vers Udaipur. Le Raja d'Udaipur ne prononçait jamais une parole en présence des gens de caste inférieure. Lorsque le porteur d'eau fut admis en sa présence, il fit signe à son vizir. Celui-ci prit la lettre et lut tout haut. L'homme qui apporte ce message a insulté le nom sacré du Raja d'Udaipur. J'ai voulu le faire périr par les tortures, mais j'estime que c'est à l'offensé qu'il appartient de châtier le coupable à son gré et à sa convenance. Le Raja fit un signe et ses gardes s'élancèrent pour massacrer Hiratman. Or, celui-ci éclata de rire. Et il riait si fort que les gardes interdits reculèrent. Le Raja fit signe à son vizir qui dit « Mon seigneur et maître exige de connaître la raison de ta gaieté incongrue et offensante. »« Maharaj, » répondit le porteur d'eau, « je ris de la ruse du Raja Madotkat. » Comme la disette, la sécheresse et autres calamités s'abattaient sur Jaipur, il a voulu savoir ce qui lui valait la colère des dieux. Et un grand devin, un grand sorcier, expliqua que j'étais la cause de ses malheurs. Et il a dit encore que celui qui me ferait mourir attirerait sur son pays 1000 désastres, pestes et famines, inondations et sécheresses, tornades et tremblements de terre. C'est pourquoi le Raja, mon maître, m'a envoyé chez toi, Maharaj. Ne trouves-tu pas que c'est extrêmement habile ? Oubliant sa coutume de ne jamais adresser la parole à ceux de caste inférieure, le Raja d'Udaipur cria vert de rage. « Ainsi ce chacal voulait rejeter sur moi et sur mon pays la juste punition que lui valent ses crimes ? Hop, retourne chez ton maître et annonce-lui qu'avant la nouvelle lune, mon armée piétinera ses récoltes, tandis que lui-même sera mon captif, chargé de chaînes et de honte. » Fin de la première piste de la deuxième cassette, page 50. Conte par Luda. La suite de cette histoire du porteur d'eau et des rajas est sur la deuxième phase de cette deuxième cassette.